Page arrachée au journal de Michel Léris, lue par Jean-Louis Trintignant.
Les bras tout chargés de fleurs, je suis entrée dans notre chambre, le cœur là, car je savais déjà que tu ne viendrais pas, et j'ai chanté des mots d'amour et de douleur.
1929.
21 mai. Changement total d'aspect d'un même paysage, vu d'auto ou vu du train. Dans le premier cas, on le voit de face, dans l'autre de profil. Il commence à faire chaud. On voit déjà des femmes aux bras nus et des hommes en sueur. Au restaurant, les gens dînent dehors. Les terrasses des cafés sont pleines. Rien de cela n'est humain, mais purement bestial. Foutrerie, ventre sans plis. Dalle en pente, belle saison pour la repopulation et la polissonnerie qui y mène tout droit. Vu Baron Gutermann, rencontré Politzer. Journée assez abrutie vu la température. Ignoble sensation de pléthore. Baron et Gutermann pensent sérieusement que la vie vaut la peine d'être vécue. Ils aiment la vie. Gutermann s'étonne que je sois malthusianiste. Il considère cela comme un restant de surréalisme. Nous parlons voyage et émigration. Gazelle et Gréty me racontent de belles histoires sur la famille Breton. Dans ce milieu surréaliste, le génie s'attrape comme la vérole. Josette Gris. Les partous intellectuels, maçons. La bohème révolutionnaire, Lénine. Je me rappelle que ces jours derniers, Picasso compara à plusieurs reprises Aragon et les surréalistes en général à André Salmon. Le poète, Jacques Vacher. 22 mai. André Breton dit qu'il tient pour un abruti celui qui ne consent pas à voir, par exemple, un cheval galoper sur une tomate. Ce que Breton oublie, c'est qu'on peut très bien consentir à voir des chevaux galoper sur les tomates, mais que cela soit tout à fait indifférent. Ce merveilleux purement mécanique, dans lequel semblent se complaire aujourd'hui les surréalistes, n'a aucun intérêt parce qu'il est dépourvu de valeur émotive. Hier soir, je me suis couché très fatigué, endormi, réveillé pour faire l'amour, énervé et épuisé. L'impression d'avoir 50 ans, les mains sèches et le corps en sueur. Écœurant. Rêve. Je vois une sorte de film sonore qui reproduit les œuvres musicales des principaux occultistes, entre autres Trithème. Je vais aussi au musical et j'y vois plusieurs numéros. Je pense beaucoup à Josette Gris et j'ai énormément pitié d'elle. C'est peut-être la femme pour laquelle j'ai eu le plus d'amitié. C'est encore actuellement une des rares personnes auxquelles je ne fasse aucun reproche. Sa situation est réellement tragique. Une femme qui commence à décliner physiquement voit par contre ses moyens d'élégance augmenter et n'a personne qui soit son amant, ni même qui lui fasse la cour. J'adorerais pouvoir la tirer de là. Mais comment ? Il me serait facile de dresser un tableau des gens que je ne déteste pas, une sorte de liste blanche qui ne serait pas bien longue. Bien peu de mes proches y figureraient et à coup sûr aucun de mes frères. Dans beaucoup de cas, les noms cités seraient ambivalents. J'aime être maigre parce que cette maigreur est une espèce de reproche à tous ceux qui m'entourent et non parce qu'elle me paraît l'image d'une plus grande pureté. J'aime souvent jouer aux troubles fêtes. C'est même un de mes plaisirs favoris. Quand je me saoule, c'est peut-être pour cette seule raison. Je peux difficilement supporter de voir quelqu'un sans qu'il se passe quelque chose entre ce quelqu'un et moi. Confidence, décision prise en commun, aventure quelconque, etc. Il faut à tout prix que cette entrevue devienne autre chose qu'une simple distraction. De toutes mes forces, j'essaie de lui donner une justification. Souvent, cette justification est purement symbolique, par exemple la soulographie. Je serais tenté de dire que toutes ces démarches sont des manières détournées de faire l'amour. Si je ne savais pertinemment que faire l'amour n'est le plus souvent pour moi qu'une démarche détournée dont le but est de me faire croire qu'il se passe quelque chose d'important entre moi et une autre personne, entre moi et le monde extérieur. Tout cela n'est que pantomime magique. Un homme qui pense ce que je pense ne peut être qu'un histrion. J'ai horreur des faux superstitieux, c'est-à-dire de ceux qui s'inventent des superstitions parce que c'est joli. Ils n'y croient pas du tout au fond, mais c'est tellement plus pittoresque. Ce qu'on reproche toujours au positivisme, c'est d'être grossier, comme si la subtilité était un critérium de vérité. Passant rue de la Convention en tramway, j'ai vu à l'arrêt de l'avenue Félix-Faure deux religieuses manquer ce tramway dans lequel je me trouvais. L'une de ses sœurs était jeune, grande et jolie. Quand elle vit que le tramway repartait avant qu'elle eût le temps de l'atteindre, elle eut un sourire de dépit. Et je ne puis oublier la fraîcheur de ce sourire. Je suis allé me faire photographier avec Z pour des passeports. Cela s'est passé dans une étrange boutique qui ressemblait à une baraque de foire, genre cascade ou rivière mystérieuse. À côté de l'atelier, il y avait un salon d'attente meublé d'une façon hétéroclite, avec une immense glace occupant tout un panneau, et devant cette glace, dans le plancher, une trappe munie d'un gros anneau de fer et s'ouvrant sur quoi ? Sur une cave ou sur des oubliettes ? 23 mai. Écris un poème dans un café où j'attendais Limbourg, face à quatre billards et à deux ou trois femmes prostituées pour vieux fonctionnaires, chefs de bureau ou officiers. Limbourg trouve qu'il faisait moins chaud au Caire qu'aujourd'hui à Paris. Je me rappelle le bruit des timbres avertisseurs, des marchands de boissons fraîches dans les rues du Caire, la patronne de la pension de famille pieds nus dans ses pantoufles, les peignoirs de la violoniste italienne qui passait pour avoir la chaude pisse. Vu à distance, ce voyage n'a pour moi plus rien de romanesque. Je serais plus tenté de me laisser aller à des divagations d'ordre, si l'on veut poétique, à propos de mon séjour en Grèce et des parcours effectués en bateau de cabotage, en autobus, en automobile ou à mulet. Il n'y a pourtant là rien d'autre que du romantisme. Aucune aventure dangereuse, pas un événement digne d'être mentionné, simplement l'immense plaisir de réellement se promener. Pourquoi suis-je incapable de faire de belles promenades dans Paris ? Le froid et le chaud ont sur mon état mental une action tout à fait équivalente à celles qu'ils exercent sur les corps. Le froid me concentre, m'affermit, le chaud me dilate, me disperse. Quand il fait chaud, mes idées s'éparpillent, ou plutôt sont dissoutes comme dans une buée. Le froid, au contraire, me rend lucide, et j'ai l'impression que toutes mes facultés sont aiguisées. Tout ceci est peut-être un peu trop schématique, mais assez vrai quand même. Il y a très longtemps que je l'ai remarqué. C'est là-dessus que sont basées les significations mystiques que j'accorde au chaud et au froid. Lorsque je parle du chaud, c'est de ce qui est chaud et humide. Du froid, c'est ce qui est froid et sec. Chaud et sec, froid et humide, ont des significations différentes. Ainsi, je rangerai le désert chaud et sec dans la colonne de droite, du côté du froid. Inversement, je rangerai la pluie, froide et humide, dans la colonne de gauche, celle du chaud. Cela tient à ce que, pour moi, la chaleur se confond avec l'humidité et le froid avec la sécheresse. 24 mai. L'acteur du Lancashire, de Limbourg, est curieux en ceci que le fil conducteur de l'histoire est constitué par une matière première et des sous-produits. C'est la houille qui est au centre. L'illustre cheval blanc, bête de théâtre, est un cheval de mine. Il y a des travaux de canalisation sur une voie publique, un suicide au gaz d'éclairage, puis un lâcher de ballon d'enfant. Les petites scènes qu'on imagine quand on est seul dans la rue ou dans un moyen de transport. Par exemple, en sortant du métro La Tour-Maubourg, j'imagine toute une scène se passant à la galerie Simon. Moi, vêtu d'un complet croisé flanelle grise et parlant avec Léonide Massine. Ma mère survenant, pensant que je suis pédéraste et étant désolé. Je ne relève aucune différence entre ces rêveries et le rêve à proprement parler, si ce n'est que dans les premiers, il s'agit toujours d'événements qui pourraient se passer dans la réalité. Déjeuner avec Toubeau. Conversation idéaliste sur la question sociale. Je suis obligé de convenir que, bien souvent, les faits réels ne sont pour moi que prétexte à la création poétique. Ainsi, il m'arrive fréquemment de me dire « Quel beau poème j'écrirai à la mort de ma mère !» Terminé, Totem et Tabou. Je commence à avoir assez de ce genre culture. Quel que soit le génie d'un homme comme Freud, je ne vois pas ce qu'en peut tirer un écrivain. Je le répète, il ne faut se mettre à la remorque ni de la philosophie ni de la science et ne pas vouloir jouer au penseur. Mais le terrible est qu'on ne sait vraiment plus quoi lire. Il faudrait pouvoir découvrir chaque jour un poète nouveau. Malheureusement, il semble bien que, pour la France tout au moins, la liste est pour longtemps complète. Un des rêves les plus désagréables qu'il m'arrive de faire est le rêve suivant. Je lis un livre très long, dictionnaire ou traité, et naturellement, au fur et à mesure que j'avance dans mon rêve, qui me semble durer toute la nuit, je suis obligé d'imaginer le texte. C'est horriblement ennuyeux et fatigant. Malgré tout, c'est à cause d'un certain désir d'immortalité que j'écris. À tout instant, je m'aperçois que je pense à la postérité et que j'ai le vague espoir d'une gloire posthume. Je me rends aussi très bien compte que c'est en vieillissant qu'on devient vaniteux et que plus on sent la mort proche, plus on a soif d'être connu. Plus on avance en âge, plus on devient sale. 25 mai. Journée trouble. J'ai vu une quantité de gens. Outre les susnommés, Baron Gutermann, Morange, Turnbull, Charles-François Baron, Sunbeam, Lübeck, Noll, Lafont. C'est vraiment trop. Qui plus est, Tamos m'a présenté à Chacornac. J'oubliais le côté femme. Une amie de Lafont, Gréty, l'amie de Politzer. Je me sens devenir nettement insociable. 28 mai. Rien noté hier sur ce cahier. Journée fatigante. Bu pas mal de whisky soda chez Baron. En discutant avec lui sur l'opportunité ou la non-opportunité de partir aux colonies pour faire de l'agitation. Le soir, aller à un concert d'un chef d'orchestre allemand où l'on jouait du Mozart et du Mahler. Remarquez le côté gemütlich de ces deux musiques, côté qu'on retrouve aussi chez Schoenberg. Nuit orageuse avec éclairs et quelques coups de tonnerre. Aujourd'hui la pluie. Vu Bataille et Limbourg. À une exposition de la Société de géographie, vu trois belles peaux de bison peintes par les Indiens Peaux-Rouges. À document, feuilleté le totémisme de Maurice Besson. Dans le courant de la journée, écrit deux poèmes que j'ai déchirés. Parler de ce journal avec Bataille, qui a des doutes sur l'intérêt d'une telle entreprise. J'ai assez bien flâné dans les rues, mais pas déjeuné, faute de trouver un endroit possible. Autrefois, je m'accommodais beaucoup mieux des lieux publics. Maintenant, si je n'ai rien à faire, je traîne longtemps dans les rues, faute de pouvoir entrer dans un café. Rue Saint-Honoré, devant la porte d'une maison de mode ou de couture, j'ai eu le curieux spectacle d'un groupe de jeunes ouvrières attendant l'heure de leur entrée. Deux d'entre elles se battaient en riant. Durant cette promenade, j'ai, comme toujours, feuilleté des livres à la devanture des libraires, notamment Rimbaud le voyant, de Roland de Renéville. J'ai toujours un peu honte de cela, comme de toute réelle perte de temps. Je suis au fond moins paresseux que je ne me l'imagine, et je déteste ces gestes qu'on fait uniquement parce qu'on n'a rien d'autre à faire, et pour tuer le temps. Je ne me rappelle aucun des rêves que j'ai pu faire depuis 2 jours. Tout est très confus, et je suis entouré d'un brouillard. J'ai une certaine impression de bien-être physique, mais la sensation d'une grande torpeur dans les idées. Je ne puis m'occuper que de choses faciles. Tout ce que j'écris ici est également facile. Mais que de pièges doivent en ce moment s'armer contre moi. J'ai dit aujourd'hui à Bataille que je comptais faire dans ce cahier une galerie de tous les gens que je connais. Il faut que je mette ce projet à exécution et que je m'attaque à ses portraits. Ce serait drôle d'essayer de faire quelque chose dans le genre « caractère de la Bruyère ». Si cela était possible, il faudrait compléter cette galerie par mon propre portrait. Je crois malheureusement que si j'entreprenais cela systématiquement, je ferais quelque chose de très artificiel et littéraire, et il y a déjà beaucoup trop de verbiage et de littérature dans tout ce que j'écris. Je suis obligé de constater que jusqu'à présent ce journal est très pauvre et ne m'apprend rien sur moi. Tout au plus, il me permet d'avoir l'illusion que je fais mieux que rien, ce qui serait encore à discuter. 30 mai. Rêve. Je vois 8 chiens qui font l'amour en file indienne. On me dit que ce sont des gens qui leur ont appris à faire cette partouze en guise de tour. 2 juin. Je commence demain à travailler à Documents. J'ai fait tous mes efforts pour avoir cette place, mais évidemment, maintenant que c'est fait, je suis très embêté. Et m'imagine que, moins occupé, je pourrais écrire des tas de choses. 4 juin. On ne trouve plus dans ce cahier aucune de ces phrases capables d'enflammer le papier, comme dit à peu près Baudelaire dans la préface de Mon cœur mis à nu. Tout y est mesquin et sans vie. Je voudrais prononcer des paroles aussi denses que des pierres, et je m'en remets aux vacances pour cela. Tout ce que j'écris, à peu d'exceptions près, est d'une extrême faiblesse. Combien, par exemple, mes articles sont inférieurs à ceux de Bataille, Desnos ou Limbourg, même les plus journalistiques. Il ne faut jamais être fier d'être incapable d'écrire un article payé. Ce n'est qu'une preuve d'impuissance. Des gens comme Edgar Poe ou Gérard de Nerval étaient des littérateurs tout ce qu'il y a de plus professionnel, exactement des publicistes. Puisque je travaille toute la journée actuellement, je voudrais que cela ait au moins pour résultat de m'éloigner de ces préoccupations. Peut-être reviendrai-je ainsi à une poésie toute naturelle. Vu hier soir Moana, film charmant. Les seins de la jeune fille exotique, qui ressemble à Bricktop, et les reins tatoués de son fiancé sont délicieux et excitants. Mais je regarde tout cela avec dilettantisme. Je n'ai plus cette fraîcheur d'émotion dont, il y a peu de jours, je parlais avec Kermadec. J'ai toujours l'idée d'écrire un poème qui soit une totalisation, un abrégé des émotions diverses que j'ai eues. Les choses les plus futiles y auraient autant d'importance que les plus graves. Et par exemple, je pourrais très bien y parler de cinéma. 8 juin. Les premiers exemplaires du numéro 2 de Documents sont sortis. Je suis totalement découragé. Le temps est lourd. Je me sens vieux et fatigué. Je suis lent et faible, servile et rieur comme un idiot. L'article que j'ai écrit dans cette publication est totalement stupide. Et quoi qu'on ne me le dise pas, je sais fort bien que c'est l'opinion générale. Au diable l'occultisme. Je ne veux plus non plus faire semblant de penser. Je me fous bien de toutes ces idées. J'aime mieux me ranger parmi les rustres et les balours tels que Reverdy, avec lequel il me semble que je m'entends si bien. Je voudrais travailler comme un paysan. Encore plus que la tête, j'ai le cœur vide. Quand donc aurais-je un cœur de chair, comme dit Reverdy. C'est à force de m'ennuyer que j'en suis arrivé à prendre la résolution de travailler. Travailler, c'est prier. Prier, cela vous abêtira. Je travaille donc et je m'abêtis. Juando et Cariati se sont mariés. Je ne les ai pas revus depuis cette épouvantable nuit passée chez eux. Beaucoup de gens ont quelque raison de me considérer comme un voyou ou comme un porc. Le malheur, c'est que je ne m'en moque pas. Je puis vraiment dire que je n'ai plus un seul ami, que je n'aime plus personne, que je suis complètement seul. Je m'ennuie au-delà de toute expression. Je m'ennuie à en pleurer, comme quand on est enfant. Je m'ennuie tant et je suis si vide que je sens mes viscères, mes testicules, tous mes organes. Si seulement je ne me sentais pas si à bout. Juin. Rêve. Aventure amoureuse avec Madame Picasso, dans une sorte de cabane de pêcheurs où il se passe des choses terribles. Conversation avec Baron. Il y a bien longtemps que nous n'avions été aussi d'accord. J'en suis touché et je me sens un peu moins seul. Tous deux, nous pensons que nous portons peut-être actuellement le poids du fait que nous nous sommes masturbés très jeunes. 11 juin. Vu la revue nègre du Moulin Rouge. Blackbirds. Spectacle admirable. Je croyais ce genre tout à fait mort, mais il n'en est rien. Deux scènes magnifiques. L'une, un sketch parodique, genre synthèse théâtrale de Marinetti, intitulé « What a Night ». L'autre, Porgy, dont le grandiose rappelle les noces de Stravinsky, sur l'air de New St. Louis Blues, avec une récitante et un chœur. Cette revue n'a aucunement le caractère d'article pour l'exportation qu'avait celle du Théâtre des Champs-Élysées avec Joséphine Baker. Aucun esthète ne semble s'en être mêlé. Tout y est bien pur et naïf. La grande vedette de ce spectacle est un nègre surnommé Snacky Hips, qui a l'air d'un chinois et semble pouvoir déplacer son point fixe et le situer à volonté dans n'importe quelle partie de son corps. Il ondule au bout de sa main immobile, ou bien suspendu à sa tête. Vu Damia à la sortie, c'est une géante majestueuse, haute et forte comme une tour, vêtue d'une façon luxueuse et extraordinairement démodée. Elle parle comme un cataclysme de la nature. Nul aspect corrompu, seulement la vie et la santé, avec tous les excès qu'un tel trop-plein de force peut causer. Elle domine tout, et tout paraît malingre à côté d'elle. En la voyant, j'ai pensé à Junon, à la vraie Junon qui n'est pas académique, mais puissante et mystérieuse comme une génisse. 18 juin. Rêve. Lettre d'Henriette Reverdy à propos de poème de moi que Reverdy lui a montré. Cette lettre se termine par cette phrase « Et tu ne connais pas encore la femme que tu écumeras. »
J'aurais trop souffert, alors tu reviendras, mais je serai parti.
C'était Page arrachée au journal de Michel Léris, choisie et présentée par Jean Jamon, lue par Jean-Louis Trintignant et enregistrée au Festival d'Avignon en 1992 par Monique Burguière et François Connac, dans une réalisation de Claude Guerre. Remise en onde Sébastien Labarre et Claude Guerre. Assistant à la réalisation, Félix Levaché, avec la voix de Julie Pouillon.
Ils te diront que je t'aimais plus que ma vie.
Le journal de Michel Léris est publié aux éditions Gallimard.